L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voici pour une nouvelle émission pour l'évangile pour le couple, Maud.
Voilà, où nous étions en train de parler de la détresse de ce monde et de comment justement annoncer la bonne nouvelle à tous ces couples qui souffrent de ne pas arriver, parvenir à l'amour dont ils rêvent.
Voilà, dernière fois nous avons vraiment essayé de regarder le plus lucidement possible, sans jugement moral du tout, mais vraiment de regarder la détresse et l'expérience aujourd'hui de ce monde en matière conjugale et amoureuse. Et aujourd'hui, nous allons aborder justement le sens justement du renouvellement de la mission, de l'évangélisation de l'amour conjugal et de la sexualité, tel que Jean-Paul II en a été le chantre, puisqu'il a, si on peut dire, lancé la nouvelle évangélisation de l'amour conjugal et du mariage.
Et nous allons commencer par un très beau texte de Saint Luc qui raconte les retours de mission des apôtres. Le Seigneur en choisit 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui, vers toutes les villes où lui-même pensait aller. Ils revinrent tout joyeux. « Seigneur, disait-il, on prononçait ton nom et même les démons nous étaient soumis. » Jésus leur dit, « S'il faut vous réjouir, ce n'est pas parce que les esprits vous sont soumis, mais parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À cette heure, Jésus fut saisi tout entier par la joie du Saint-Esprit. Il éleva la voix et dit, « Je proclame tes grandeurs, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées à des tout-petits. Oui, Père, c'est cela qui t'a paru bon. » Jésus se tourna vers ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. »
Oui, c'est cette joie immense. Ce texte est absolument magnifique. Moi, tu l'as souligné tout à l'heure, en révélant combien la joie profonde habite à la fois les disciples et en premier le Seigneur, de voir les fruits immenses d'une mission qui annonce la bonne nouvelle du royaume. Et c'est effectivement aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir au niveau, je dirais, de ce renouveau missionnaire, particulièrement auprès des couples et des jeunes, dans tout ce qui concerne la vie affective. Et c'est tout le chantier de la nouvelle évangélisation qui a été, je dirais, lancée par Jean-Paul II, il y a maintenant une vingtaine d'années, 25 ans. Et c'est vraiment cette nouvelle évangélisation qui s'inscrit dans ce renouveau de la mission, je dirais, qui a été généré par le Concile Vatican II. On a parlé, plusieurs en ont parlé, des papes en ont parlé, même des saints ou des futurs saints, comme Marthe Robin, de ce printemps, de ce nouveau printemps de l'Église, comme l'Église en a connu comme cela depuis 20 siècles.
Voilà, c'est un enjeu extraordinaire pour l'Église aujourd'hui de se tourner vers notre génération avec des nouveaux moyens et une nouvelle ardeur, nous dit Jean-Paul II. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une évangélisation qui serait tout à fait différente des précédentes, mais comme un renouveau de ce qui a déjà existé, c'est-à-dire ces vagues successives où on s'adapte à la situation de nos contemporains pour annoncer toujours la même bonne nouvelle.
Oui, c'est ce terme, c'est important de le dire, cette nouvelle évangélisation, c'est pas dire avant c'était pas bon et maintenant nous on est bon. Non, l'Église a connu, comme cela dans son histoire, des vagues d'évangélisation et de renouveau de l'évangélisation régulièrement. Et c'est pour cela que nous voulons, en contraste avec ce que nous avons décrit la dernière fois de la détresse de ce monde en matière conjugale, justement, de pouvoir souligner toute l'espérance que génère à la fois cette dynamique spirituelle et à la fois les premiers fruits aussi de ce renouveau missionnaire vis-à-vis des couples et des familles. Et en reprenant justement ces paroles du Christ, « Voyez, les blés sont bientôt mûrs pour la moisson. » et beaucoup ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, notamment parmi les auditeurs, de parents ou de grands-parents qui se lamentent de la situation, de ce qu'ils voient, et ce printemps, ils ne le voient pas. Mais pourtant, ce printemps est là, ces prémices sont là, et ceux vraiment qui étaient tellement éloignés du Seigneur, vraiment sont intégrés dans cette dynamique-là. Nous avons la joie en ce moment de missionner régulièrement avec un jeune couple qui vraiment est passé par tous ces aléas de cette sexualité complètement débridée, et qui justement ont été transformés, ressuscités, pourrait-on dire, par cette bonne nouvelle du Christ. Et aujourd'hui, ils ont été complètement transformés. Et effectivement, leurs paroles, aujourd'hui, touchent profondément. Et c'est un signe de temps que de voir de ceux qui étaient peut-être les plus loin de l'Église, transformés par le Christ et par cet évangile du Christ, eh ben, sont retournés et vont toucher les cœurs, et particulièrement ceux qui sont loin de l'Église, les brebis éloignées.
C'est pour ça que c'est tellement beau de voir à quel point le travail de l'esprit aujourd'hui rejoint justement ceux qui souvent sont dans une détresse affective, sexuelle, conjugale, et que c'est parfois au cœur même de cette détresse que l'Esprit Saint va annoncer la bonne nouvelle, va les revivifier dans leur bonheur de vivre. Et ça, c'est extraordinaire de voir comme un prémisse, Alex, tu le disais, comme un signe de printemps de l'Église, aussi tous ces jeunes qui délibérément choisissent le chemin du vrai amour conjugal, le chemin de la chasteté avant le mariage, le chemin des fiançailles, le chemin d'un amour consacré en Christ. Même s'ils sont peu nombreux, ils sont annonciateurs d'un nouveau printemps, d'une nouvelle énergie de l'esprit qui se déploie pour notre monde.
C'est ça aussi qui est impressionnant, et que nous, en tout cas, qui nous frappe, nous qui sommes la génération, on s'approche de la cinquantaine, on est frappé de voir aujourd'hui toute une génération de jeunes couples qui, justement, sont très, très mobilisés. Je pense que Jean-Paul II n'y est pas pour rien, c'est bien la génération Jean-Paul II, et Benoît XVI maintenant, bien entendu, qui vraiment est nourri, a été biberonné, justement, dans cette dynamique missionnaire, et aujourd'hui qui ont du zèle pour aller annoncer cet évangile du mariage, d'annoncer de manière explicite le salut du Christ, alors que peut-être au niveau de notre génération, on était peut-être dans le témoignage de vie, etc., mais l'annonce explicite, disons que c'était pas évident. C'était pas évident, c'était, entre guillemets, c'était pas intégré dans la culture ecclésiale ou pastorale. Et c'est là où Jean-Paul II a dit, mais le témoignage est absolument fondamental et premier, la conversion conjugale est absolument première et familiale, mais nous devons, si nous répondons à l'appel du Christ, nous devons aller jusqu'au bout et vraiment renouveler notre manière de faire, notre annonce, etc. Et donc c'est pour ça, Maud, qu'il est important, peut-être au-delà d'ailleurs de la nouvelle évangélisation du couple et du mariage, qu'on doit peut-être essayer de reprendre les fondamentaux de cette nouvelle évangélisation qui concerne d'ailleurs tout le spectre de la pastorale.
Voilà, c'est déjà 9 mois après son élection, Jean-Paul II disait, au seuil du nouveau millénaire, en ces temps nouveaux, en ces nouvelles conditions de vie, l'évangile est de nouveau annoncé. Une nouvelle évangélisation est commencée, comme s'il s'agissait d'une deuxième annonce, bien qu'en réalité, elle soit toujours la même. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toujours, l'Église ne cesse d'annoncer et de missionner. L'Église est faite pour être missionnaire, ça il nous le répétera de nombreuses fois pendant son pontificat. L'Église existe pour la mission, elle est là pour porter la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, doit être réannoncée à chaque génération, puisque, comme on le sait bien, en dehors de transmission des informations scientifiques, etc., toutes les connaissances qu'on apprend, la foi n'est pas qu'une transmission de connaissances, elle est surtout la transmission d'un amour, d'un visage, d'une révélation. Et ça doit toucher chaque cœur, personne par personne, une par une, chacun doit recevoir l'annonce du Christ pour lui, personnellement.
Voilà, et c'est pour ça que Jean-Paul II souligne que la tâche prioritaire de la nouvelle évangélisation, prioritaire pour l'Église, prioritaire, c'est pas une des tâches de l'Église, la tâche prioritaire de l'Église, demande une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes, un nouveau langage pour l'annonce et le témoignage évangélique. Prenons par exemple le cas aujourd'hui de l'immense chantier qui se joue aujourd'hui sur le net, sur Internet, au travers des blogs, etc. Il y a un chantier d'évangélisation au travers des blogs qui est absolument énorme. C'est pour cela d'ailleurs que un des cardinaux en charge de la vie religieuse, recevant des communautés, des jeunes professes de moins de 40 ans, religieux et religieuses à Rome, leur a dit « Aujourd'hui, l'Église invite tous les nouveaux religieux et religieuses de moins de 40 ans qui sont dans la culture de l'Internet de répondre, de prendre au moins 2 heures par semaine pour être sur les blogs, pas les globes catho, hein, sur les blogs du monde, sur les blogs des radios, des médias, etc., pour justement rentrer dans les chats, pour pouvoir annoncer le Christ, témoigner, etc. Voilà un peu des chantiers qui sont complètement nouveaux. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, la nouvelle culture, fait qu'aujourd'hui, il y a une ouverture.
Voilà, et puis si on voit aussi ça pour la musique, l'Église, depuis les origines, n'a cessé d'évoluer au niveau de ses styles musicaux pour annoncer le Christ avec ce qu'elle est, en passant du grégorien au gospel et maintenant à la pop louange. Partout, tout est utile et tout est utilisé pour annoncer la parole avec des moyens nouveaux. Et quand on voit aussi les communautés qui mettent, par exemple, tous les médias, la radio, la télévision, au service de l'annonce, effectivement, nous sommes là à utiliser des moyens à nouveau, mais pour renouveler le visage d'évangélisation, mais le message est toujours le même, le Christ nous libère.
Et à la fois, on renouvelle, mais on revient aussi toujours aux fondamentaux. Quand à Paris, le cardinal Lustiger a organisé Paris Toussaint 2004, je crois que c'est quasiment toutes les paroisses qui ont organisé, à la fois dans les églises et à l'extérieur des églises, des rencontres, des annonces, etc., dans la rue, qui allaient proposer. L'église propose avec conviction, joie, rayonnement, et chacun dispose. Mais on rase plus les murs, on est heureux d'être chrétien, on sait qu'on a absolument un trésor, que le monde nous envie, même si jamais il ne le sait pas. Et donc nous avons à rentrer, nous dit Jean-Paul II, dans l'expérience d'une nouvelle Pentecôte. Nouvelle évangélisation, c'est d'abord une nouvelle Pentecôte. C'est pour ça qu'on a passé 4 émissions entières sur l'expérience du Saint-Esprit dans le couple, pour justement introduire toute cette grande série d'émissions sur l'évangélisation. Aujourd'hui, on doit affronter, dit Jean-Paul II, une situation toujours diversifiée dans le contexte de la mondialisation et d'une mosaïque nouvelle et changeante de peuples et de cultures qui la caractérisent. C'est pour cela que je reprends aujourd'hui l'appel de la nouvelle évangélisation pour montrer, écoutons bien, qu'il faut raviver en nous l'élan des origines, l'élan des actes des apôtres, la fondation de l'Église, en nous laissant pénétrer de l'ardeur et de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte. L'ardeur de la prédication apostolique qui a suivi la Pentecôte. Nous devons, dit Jean-Paul II, poursuit Jean-Paul II, revivre en nous le sentiment enflammé de Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Donc c'est pas que c'est important, c'est que si jamais je n'annonce pas l'Évangile, malheur à moi. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon programme génétique de chrétien. A tout de suite pour approfondir tout ce thème de la nouvelle évangélisation du mariage. Voici Maud pour approfondir le sens de cette nouvelle évangélisation du mariage, de la vie conjugale, de la sexualité.
Voilà, nous parlions justement de cet appel de Jean-Paul II qui nous encourage justement à annoncer la bonne nouvelle, en reprenant aussi ces paroles de Paul, « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Parce que si je n'évangélise pas, ça veut dire que je n'ai pas expérimenté la grâce du salut du Christ en moi, que je n'ai pas reçu cette effusion de l'Esprit qui vient vivifier toutes les grâces reçues dans les sacrements, et donc je n'ai envie d'annoncer rien à personne. Si c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi, c'est que j'en vis, et donc je ne peux pas faire autrement que l'annoncer. Donc voilà là, le mécanisme, c'est que si jamais je vis vraiment ce bonheur de la révélation et de la présence de Christ dans ma vie, alors je n'ai qu'une envie, c'est de me laisser toucher par la détresse de ceux qui ne connaissent pas le Christ pour aller annoncer, proclamer la bonne nouvelle.
Voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'approfondir l'appel qu'a lancé Jean-Paul II, à la fois sur le renouveau de la théologie, de la pastorale et de la mission concernant le mariage et la vie conjugale. Et c'est pour cela que dès le début de son pontificat, Jean-Paul II invite expressément les chrétiens, je le cite, à annoncer avec joie et conviction la bonne nouvelle sur la famille, certain que plus que toute autre communauté humaine, l'Église connaît la route qui conduit la famille au cœur de sa vérité profonde, apprise à l'école du Christ et à la lumière de l'Esprit-Saint. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que l'Église est experte en humanité, mais elle est aussi experte en conjugalité. Parce qu'elle connaît vraiment de la part du Seigneur la révélation et comme le programme, comment nous sommes faits, pourquoi nous sommes faits.
Oui, je pense que si on regarde aussi, Alex, l'évolution de l'Église et de la société, Jean-Paul II a tout à fait raison de souligner que nous sommes dans un moment historique. C'est-à-dire que historique par rapport à la conjugalité. C'est-à-dire que autant il semblait peut-être moins urgent d'annoncer la bonne nouvelle du mariage il y a 2 ou 3 générations, autant aujourd'hui ça devient crucial, parce que c'est le lieu même de la détresse la plus grande de nos contemporains, et donc l'Église a rendez-vous avec ce siècle pour apporter la bonne nouvelle qui est celle des temps que nous vivons, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'amour.
Et c'est là où nous voyons bien que l'Église est au rendez-vous de ce rendez-vous historique. C'est pas un hasard si à ce jour l'Église a béatifié, a reconnu comme bienheureux et saint 2 couples, les parents Martin, les parents de Thérèse, et les Quattrocci, qui ont été le premier couple reconnu saint en tant que couple. D'autres époux ont été reconnus saints, mais en tant qu'époux et personne, mais pas en tant que mariés. Et donc, il y a vraiment cette conscience aujourd'hui, qu'il y a comme effectivement une rencontre de l'expérience, je dirais, ecclésiale, et de là où l'Esprit Saint nous conduit, avec justement le besoin des peuples. Et ce n'est en rien un hasard que nous avons justement une détresse conjugale et maritale, etc., et familiale, peut-être comme rarement l'Église, l'histoire et du monde l'a connue. Et que justement, au cœur de cette détresse, eh bien, c'est là où on a le plus grand théologien de l'histoire au niveau du mariage dans l'Église catholique romaine, et que justement, il y a autant de bénédictions, et que se lance cet immense chantier. Enfin, c'est extraordinaire, cette rencontre historique, pourrait-on dire, entre la détresse d'un monde et la révélation qui, comme se dilate, et la mission conjugale qui se dilate.
Je pense aussi, Alex, que dans la société, le moment que nous vivons, où nous commençons à avoir les moyens techniques d'agir et de toucher à la naissance même de la vie, avec toutes ces questions d'embryon, de manipulation, etc., la famille est le lieu même de l'expertise de la vie, évangélique et de l'accueil de la vie dans la plénitude de cette gratuité. Et donc, ce n'est pas tout à fait un hasard que nous soyons là, confrontés à des questions éthiques et je dirais fondamentales, existentielles, sur tout ce qui touche à la vie, à l'amour, et que la famille chrétienne soit là pour annoncer le chemin de la vérité, de la vie, de la joie, de la paix dont nous avons parlé dans les émissions précédentes. Mais j'aimerais bien qu'on cite très clairement, vas-y, Jean-Paul II sur ces textes-là, parce qu'il faut vraiment entendre sa parole.
Voilà, c'est ça qui est quand même très important d'entendre. Jean-Paul II dit, l'avenir de l'évangélisation, donc de la mission de l'Église, dépend en grande partie de l'Église domestique. En grande partie. Donc ça veut dire que nous sommes en tant que couple et famille, nous sommes au cœur de l'épicentre de l'enjeu missionnaire de la mission de l'Église dans le monde, dans le troisième millénaire. C'est au cœur de cette mission. Donc à la fois nous sommes l'objet de l'évangélisation et à la fois nous sommes acteurs de l'évangélisation. Et donc c'est vraiment, l'enjeu est absolument colossal.
Voilà, donc il est temps pour les familles chrétiennes et en particulier les couples chrétiens de prendre conscience de leur responsabilité par rapport à cette annonce. Si nous n'annonçons pas cette espérance-là, qui le fera ? Et nous avons cette responsabilité d'annoncer en particulier aux jeunes le sens du couple, le sens profond de ce mystère que nous vivons dans l'alliance conjugale. L'immense espérance dont nous sommes porteurs, qui est justement l'espérance du bonheur, d'une vie où nous pouvons, jusqu'à la fin, demeurer ensemble, dans l'amour et dans un amour en crescendo. Quelle espérance plus forte que celle-là ?
À la fois, c'est cette intensité de l'expérience conjugale vécue avec le Christ qu'il est important de proposer, et également de proposer l'accessibilité. C'est pas accessible, c'est accessible, c'est pas un rêve, c'est possible si jamais tu accueilles le Christ au cœur de ta vie amoureuse, au cœur de ta vie conjugale. D'où l'importance d'articuler vraiment cette Pentecôte sur l'amour conjugal avec ce grand chantier missionnaire de la bonne nouvelle du Christ pour le mariage.
Soyons dociles à l'Esprit Saint qui envoie aujourd'hui des couples annoncer à leur manière la bonne nouvelle du mariage. Rappelons-nous les prophètes qui avaient été envoyés par Dieu pour parler de l'amour. Eh bien, certains ont même été incités à aller reprendre leur femme adultère ou leur femme qui s'était prostituée pour manifester l'amour de Dieu. Nous avons, nous aussi, à rentrer dans une docilité à l'Esprit Saint pour trouver les moyens de témoigner de l'amour qui se vit dans nos familles chrétiennes unies en Christ.
Et donc, effectivement, moi, tu soulignes bien le processus. Nous avons d'abord à faire l'expérience en tant que couple et en tant que famille de cette transformation bouleversante. Et après, la mission, elle ne va être finalement qu'un débordement. Un débordement. Mais ce n'est pas d'abord la question de nos paroles, de nos doctrines, de notre, entre guillemets, notre vérité. L'important, c'est un débordement d'une expérience de salut, de bénédiction, de dilatation, d'expérience existentielle, fondamentale, qui fait qu'à un moment, je ne peux que le partager, je ne peux que le proposer, bien sûr, chacun étant complètement libre, et chacune de ces expériences conjugales et familiales étant, bien entendu, extrêmement
diverses,
multiples, etc., etc. Mais on rejoint le besoin de tout homme, de toute femme, de tout couple, d'être aimé, d'être pardonné et de rencontrer le Christ et d'être conforme à la vie trinitaire dont il est l'icône. C'est ça notre bonheur en tant que couple et c'est ce à quoi chaque couple aspire.
Voilà, nous pouvons déjà intercéder chacun pour que chacune de nos familles, chacun de nos couples soit un lieu d'espérance, de témoignage de la joie. Et c'est un don que nous pouvons demander parce que, au nom de cette détresse, nous avons à rendre compte de l'espérance qui nous habite.
Voilà, que le Seigneur vienne vous bénir dans cet appel qui nous est fait en tant que couple chrétien à recevoir cette mission de la part de Christ pour annoncer cette plus belle bonne nouvelle qui puisse exister, celle de le connaître et de l'aimer. Soyez bénis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit.